Bonjour et bienvenue en ce lundi matin 11 mars. Oui. Ceux qui n'ont pas mis le nez dehors encore, s'il fait beau, fait soleil, vous pouvez mettre vos petites jupes d'été, c'est magnifique.
Un petit peu de giboulé.
Le temps est splendide, on est tellement contents. Enfin, c'est l'été.
Oui. Ça s'en vient, ne perdons pas patience.
Bonjour Roger, ça
bonjour,
va?
Tiens, ça
bonjour
va bien.
Jean-Sébastien à la régie.
Bonjour.
Alors, de quoi vous nous parlez ce matin, Roger?
Moi, je vais vous parler du prêt-à-porter. Du prêt-à-porter qui est presque devenu du quasi-prêt-à-jeter.
Et autre chose pendant la première demi-heure ou seulement
non, c'est la première demi-heure, ça, okay. C'est...
En deux volets.
C'est qu'est-ce qui cloche dans les vêtements?
C'est bon. Moi, je me plonge dans l'itinéraire cette semaine, l'itinéraire qui était consacré à hommes et femmes, où en sommes-nous? Et j'aurai deux portraits dans cette première demi. Ben, une entrevue avec Louise Arbour, envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU, et également un portrait de Émilie Gamelin.
Dans l'actualité du mois d'avril, on peut lire un grand reportage de Jean-Philippe Cipriani qui a pour titre « Qu'est-ce qui cloche dans nos vêtements ?» Au début des années 2000, dans la foulée de la mondialisation, les marques de vêtements ont délocalisé leurs usines dans les pays en développement, explique la journaliste new-yorkaise Elizabeth Klein, auteure de l'enquête « Le coût scandaleux de la mode bon marché », bouquin paru en 2013. Des villes importantes du textile comme Montréal et New York ont perdu presque tous leurs ateliers. Les chaînes ayant accès à des dizaines de millions de travailleurs en Chine, en Inde, au Pakistan et au Bangladesh, prêts à bosser pour des salaires très bas, elles pouvaient produire en très grande quantité, à faible coût. L'effet a été spectaculaire, tandis que le prix des aliments a grimpé de plus de 46 % depuis 2002 au Canada. Celui des vêtements a baissé de près de 19 % pendant la même période, selon Statistique Canada. L'autre élément pour expliquer la surconsommation, c'est le web, poursuit Elizabeth Klein. Internet a permis de propager les tendances et de les accélérer. Les modes pouvaient auparavant durer 10 ans. Elles passent maintenant en une année. Hein? Alors ça change. En un rien de temps. Mais à un prix aussi bas, la qualité des vêtements a décliné d'autant. Les designs sont simplistes et les matériaux résistent moins au lavage. On parle même d'un T-shirt qu'on peut laver 2 ou 3 fois avant de le jeter, dit-elle dans son texte. Les bas prix ont aussi changé les attentes des consommateurs. Puisqu'ils ne paient pas cher, ils ne s'attendent pas à ce que ça dure très longtemps. Ça crée un cercle vicieux où les marques offrent une qualité à peine acceptable. Et les vêtements s'empilent, sondage après sondage. Les consommateurs admettent ne porter qu'entre le tiers et le cinquième de leur garde-robe. La moitié des vêtements sont jetés après un an, selon Greenpeace, et les 2/3 de ceux-ci finissent au dépotoir, plutôt que dans les boîtes de dons. Selon la fondation Ellen MacArthur, 2625 kilos de vêtements sont jetés ou brûlés chaque seconde, de quoi remplir l'Empire State Building de New York 1,5 fois chaque jour de l'année. Sans compter le problème du synthétique. Nos polyesters, nylon et acrylique sont tous des polymères dérivés du pétrole. Il faut 1,5 kg de pétrole pour produire 1 kg de polyester. Avec le prix du baril aussi bas que 50 $, bien ça augmente actuellement, le synthétique se retrouve plus que jamais sur les étalages. Même s'il peut être recyclé, il finit lui aussi en grande partie au dépotoir, où il mettra, tenez-vous bien, de 200 à 400 ans à se décomposer. Et chaque lavage envoie des milliers de microfibres de plastique dans les océans. On joue, comme nous le savons, des organismes de charité sont prêts à recycler les vêtements qu'on leur apporte. À la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal, en général, la moitié des vêtements donnés sont écoulés dans les friperies de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Le reste est vendu à des tiers, comme la Fondation des Grands Frères et des Grandes Sœurs, à un prix variant entre 50 cents et 1,75 $ le sac. Selon Denise Ouellette, qui est directrice générale de la Société Saint-Vincent-de-Paul, on joue un rôle dans le cycle du développement durable. Je préférerais cependant que les gens achètent moins au départ plutôt que de participer au commerce de gaspillage des vêtements. Et il y a d'autres organismes, on en parle dans l'article, là, Renaissance aussi, qui joue un très grand rôle, oui, dans le domaine, mais qui aussi vend son surplus, qui ne sont pas écoulés dans leur friperie, à des organismes comme les grands frères et les grandes sœurs. Ils vendent ça à la livre, 1,60 $ la livre à peu près, 3,50 $ le kilo. On revient à ce texte tout à l'heure et on vous parle d'un autre problème qui découle de cette situation. Il s'agit des stocks des fabricants. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ça s'empile, les inventaires.
Alors, deux femmes d'exception pendant cette première demi-heure. La première, c'est l'honorable Louise Arbour. C'est une entrevue publiée dans l'Itinéraire et c'est signé Laurent Soumis. L'honorable Louise Arbour, qui est envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU, elle nous parle du pacte de Marrakech. En décembre dernier, 152 pays membres de l'ONU ont adopté le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Sous la pression américaine, 12 pays se sont abstenus et 5 ont voté contre, dont les États-Unis. Ancienne juge à la Cour suprême du Canada de 1999 à 2004, Mme Arbour a été procureure en chef du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda de 1996 à 1999. Elle a été haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU de 2004 à 2008. La première question. Durant 2 ans, vous avez été l'âme des négociations qui ont mené au pacte de Marrakech. Malgré la défection de certains États, êtes-vous satisfaite du résultat? Dans le contexte politique actuel, je suis très satisfaite. Dans le contexte d'enjeux internationaux comme la migration et la mouvance humaine à travers les frontières, le fait de ne pas voir tout le monde réuni dans un consensus est toujours un peu décevant. Cela aurait été plus qu'ambitieux d'espérer que tout le monde se rallie. Tout a commencé avec la crise européenne en 2015. Les Européens se sont tournés vers les Nations Unies pour dire qu'ils ne pouvaient pas continuer sans avoir un framework, un guide. Le pacte n'est pas un traité, ce n'est pas une convention, ce n'est pas un document juridique de nature contraignante. Ça n'oblige personne à quoi que ce soit sur le plan juridique. C'est une entente, non seulement sur les bonnes pratiques, mais un effort pour aller dans des directions communes. Ça n'oblige personne, mais ça donne de très bonnes indications sur la façon dont on devrait procéder. La deuxième question, quelles sont les grandes lignes du pacte? Le pacte comprend 23 objectifs qui s'appliquent avec différents degrés d'intensité aux situations très différentes dans le monde. L'un des premiers objectifs est donc de comprendre de quoi on parle. Un exemple, les gens confondent tout le temps les réfugiés et les migrants. Les réfugiés, il y en a 25 millions à travers le monde, sont des gens qui fuient la persécution, qui fuient des pays en guerre et qui n'ont plus la protection de leur gouvernement. Par contre, les migrants, il y en a 258 millions, sont des gens qui vivent depuis au moins 1 an dans un pays autre que le pays de leur origine. Les motivations de ces 258 millions de personnes sont très variées. Aller s'établir ailleurs, partir à l'étranger pour étudier, rencontrer quelqu'un et vouloir s'établir ailleurs. Il y a aussi beaucoup de gens très pauvres qui essayent de donner une meilleure vie à leurs enfants. Le pacte dit aussi qu'il faut protéger les droits des migrants contre le racisme et la xénophobie. Le pacte parle aussi du volet humanitaire pour avoir une meilleure réponse de solidarité envers les personnes extrêmement vulnérables, souvent aux mains des passeurs et des trafiquants. Enfin, il parle du volet économique, de l'intérêt des pays, alors que l'Occident est en décroissance démographique et que d'autres parties du monde sont en période de grande croissance. Toutes ces pratiques sont énumérées dans le pacte. Et la troisième question, la question des migrants s'invite déjà en campagne électorale. Andrew Scheer prétend que le pacte, citation, « aura une influence sur le système d'immigration et que les bureaucrates étrangers viendront dire au Canada comment gérer ses frontières. » Fin de citation. Vous n'êtes résolument pas de cet avis. Oui, et surtout pour la deuxième partie. De dire que ça peut influencer le Canada? Je l'espère. J'espère qu'un pays comme le Canada a l'intention de s'ouvrir aux grandes questions mondiales. Ce serait assez désappointant si le Canada n'avait aucune intention de s'ouvrir à cette conversation. Mais la deuxième partie, de suggérer et de prétendre que des fonctionnaires étrangers vont venir dire au Canada comment gérer les questions d'immigration, ça, c'est du pur délire. Le pacte est explicite. L'immigration relève de la souveraineté des États. Juridiquement, c'est une question qui relève exclusivement de la souveraineté des États. Avoir une politique d'immigration qui est sabotée par ses voisins, ça n'a pas beaucoup de chances de réussir. C'est un domaine dans lequel, comme dans les changements climatiques, la coopération internationale est la voie du succès pour la mise en œuvre de politiques nationales, quelles qu'elles soient. Voilà, c'était une entrevue avec l'honorable Louise Arbour. Elle était publiée dans l'Itinéraire du 1er mars et c'est signé Laurent Soumis.
Imaginez la terre comme un jardin d'Éden, horizon sans frontières, russe ou américaine. Personne ne s'amuse à jouer à la roulette. Qui sera le premier à faire sauter la planète? Revenir en arrière à des temps primitifs, retrouver l'eau et l'air.
Repartir à zéro, grand succès de Jobocan en 1989, et c'était repris ici par Peter-Henry Philippe. C'est dans le cadre de la série Pop the Jam.
Oui, repartir à zéro, hein, c'est le cas de nombreux migrants et réfugiés.
Oui, oui, ça c'est une chanson qui sied bien à la situation. Bon, alors
on revient à nos guenilles.
Oui, oui, l'industrie de la guenille. De retour au reportage donc de Jean-Philippe Cipriani, qui est publié dans l'actualité du mois d'avril. Là. Il donne un goût de printemps.
Oui.
L'édition du mois d'avril, déjà. Qu'est-ce qui cloche dans nos vêtements? Tout à l'heure, je vous ai parlé des organismes de charité qui recueillent les vêtements qu'on veut bien leur confier au lieu de les expédier au dépotoir. Je vous rappelle que les deux tiers des vêtements dont on ne veut plus finissent au dépotoir, Maintenant, le journaliste nous entretient d'un autre problème. Que font les multinationales des stocks invendus, ce qu'il advient des invendus, est un secret très bien gardé chez les multinationales. Les vêtements invendus sont incinérés ou déchiquetés pour être jetés. Quelques entreprises vont couper les étiquettes et envoyer les vêtements dans les pays en développement, mais c'est très rare. En donnant leur stock, les détaillants auraient l'impression de diluer la valeur de leurs produits, ajoute-t-elle. Des mouvements réclament que les grandes marques fournissent les informations sur le sort des invendus dans leurs résultats annuels aux actionnaires. La France, elle, veut aller plus loin. L'an dernier, le premier ministre Édouard Philippe a annoncé son intention d'obliger les détaillants à donner leurs invendus aux œuvres de charité, comme c'est le cas dans le secteur alimentaire. Au Québec, rien n'est envisagé. Le textile n'est pas inscrit sur la liste de la responsabilité élargie des producteurs qui force certaines industries à assurer le remisage de leurs produits comme les piles, les huiles ou la peinture, selon les principes du développement durable. Le plan d'action du Québec en gestion des matières résiduelles, échu depuis 2015, est aussi muet sur le textile. Le prochain programme est en cours d'élaboration, mais Recycle Québec ne peut dire si le gaspillage vestimentaire en fera partie. Recycle Québec, société publique vouée à la récupération et au recyclage, précise avoir financé 22 ressourceries et friperies dans le cadre d'un programme d'économie sociale, ainsi que deux initiatives d'utilisation de résidus textiles pour confection de produits, comme des vêtements réalisés par des créateurs québécois à partir de matières récupérées. De son côté, le Conseil québécois du commerce de détail tente de sensibiliser ses membres à l'idée d'une économie circulaire, où rien ne se perd de tout ce qui se crée. Il réclame lui-même des règles claires et des actions concrètes de l'État. Par exemple, la mise en place de comités de travail avec l'industrie et Recycle Québec et des formations gratuites, comme ce fut le cas pour les matières organiques, avance le porte-parole Emmanuel Rouillard-Moreau. Le CQCD réclame aussi des subventions de l'État et du Fonds vert pour inciter ses membres à prendre un virage écologique. L'économie circulaire, c'est probablement ce qui s'en vient là. Voilà. Le Fashion Transparency Index, indice créé par l'ONG Fashion Revolution, mesure depuis 2016 les efforts des géants du vêtement en matière d'environnement, de conditions de travail, de traçabilité, de gouvernance et de bien-être des animaux. Il est né après l'effondrement au Bangladesh en 2013 du Rana Plaza, un atelier où on fabriquait les vêtements Joe Fresh. Dans l'édition 2018 du Fashion Transparency Index, une dizaine de noms se démarquent comme H&M, Gap, Adidas et Reebok, sauf qu'aucune des 150 entreprises listées n'obtient une note qui dépasse 60% pour ses efforts, preuve que beaucoup de travail reste à faire. En outre, 94 marques mondiales du prêt-à-porter, dont H&M, Gap, Adidas, Hugo Boss et Esprit, ont signé le Global Fashion Agenda, un engagement de l'industrie. D'ici 2020, elles se sont engagées à tendre vers une économie circulaire, récupérer les vêtements invendus et usagés, choisir des teintures éco-responsables et intégrer des matières recyclées dans les vêtements neufs. En terminant, juste un petit rayon d'espoir venu du Québec. Il y a quelqu'un qui fait de la recherche qui s'appelle, comment s'appelle-t-il? David Dussault. Il a trouvé le moyen d'éliminer les textiles en 90 jours grâce à des champignons. Le mycélium, c'est en fait des racines de champignons qui mangent les tissus en produisant des enzymes, les transformant en résidus organiques. Les champignons sont des décomposeurs moléculaires au spectre très large, dit David Dussault. Ils peuvent dégrader beaucoup de composés récalcitrants, y compris les polymères difficiles et non biodégradables. Ah, peut-être que ça s'en vient, parce qu'il a lancé une entreprise. Je ne sais pas si ça va fonctionner.
Des t-shirts mangeables?
À peu près ça.
Sous la rubrique des gens d'exception, toujours dans l'itinéraire du 1er mars, c'est un texte signé Mario Alberto Reyes Zamora. C'est un portrait d'Émilie Gamelin. Entraide et dévotion. Émilie Gamelin, qui est morte en 1851, a consacré le plus clair de son temps à aider de différentes manières les pauvres, les orphelines, les chômeurs, les malades, les infirmes, les prisonniers politiques, les femmes ainsi que les gens souffrant de maladies mentales. Elle cherchait à faire une différence dans la vie des gens les plus vulnérables. née le 19 février 1800 à Montréal, Émilie Tavernier, entre parenthèses Émilie Gamelin, est la fille d'Antoine Tavernier et de Marie-Joseph de Maurice. Dernière arrivée dans une famille de 15 enfants, elle ne connaîtra jamais 9 de ses frères et sœurs, décédés avant même qu'elle ne voie le jour. Sa mère meurt avant qu'Émilie atteigne ses 4 ans. Peu de temps avant sa mort, Marie-Joseph confie la petite Émilie à sa belle-sœur plutôt aisée. La jeune Émilie a donc pu bénéficier d'une éducation de qualité au pensionnat des sœurs de la congrégation Notre-Dame. Elle commence à aider les pauvres à 18 ans, alors qu'elle s'occupait de l'auberge de son frère qui venait de perdre sa femme. Elle fait aménager une pièce pour les pauvres à qui on sert un bon repas gratuitement. Lorsque son frère se remarie un an plus tard, elle doit cesser ses activités. Le 4 juin 1823, elle épouse Jean-Baptiste Gamelin, un bourgeois respectable beaucoup plus âgé qu'elle. Le couple avait en commun le désir d'aider les pauvres et était fortement croyant. Jean-Baptiste décède 4 ans plus tard, laissant Émilie seule à s'occuper de leurs 3 enfants. Le malheur s'acharne, les enfants décèdent les uns après les autres en l'espace de quelques mois. Désormais seule et endeuillée, Émilie se met au service des autres. Au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent, en mars 1830, elle ouvre un premier refuge pour les femmes pauvres et malades. L'année suivante, elle loue un second établissement qu'elle gère elle-même. Ce sont les balbutiements de l'œuvre de la Providence. Constamment à la recherche d'argent et de provisions, elle organise des ventes d'objets de toutes sortes et elle passe de porte en porte pour demander des dons. En 1836, Antoine-Olivier Berthelet, riche homme d'affaires charitable, lui offre la Maison Jaune, qui sera renommée plus tard la Maison de la Providence. Cette troisième maison est située au coin des rues Saint-Hubert et Sainte-Catherine. Cette femme de cœur se dévouera particulièrement durant l'épidémie de choléra de 1832 à 1834. Durant la rébellion des Patriotes en 1837, elle apporte aide et réconfort aux détenus de la prison au pied du courant, à qui elle apporte courrier et denrées, même si tout cela était formellement interdit. Puis, elle fonde l'hospice Saint-Jérôme-Émilien, destiné à traiter les enfants d'immigrés irlandais massivement frappés par le typhus en 1847. En 1843, Mgr Ignace Bourget crée la Communauté des Sœurs de la Providence pour laquelle Émilie Gamelin deviendra la supérieure. Cette nouvelle congrégation religieuse est la première érigée par des Montréalais. Elle administre entre autres l'Asile de la Providence, détruit en 1963, refuge pour femmes âgées et invalides. Plusieurs autres institutions sont créées par la congrégation, dont l'Hospice Saint-Joseph, un bureau de placement pour les domestiques, l'école Saint-Isidore, le foyer Notre-Dame des Sept Douleurs, le foyer Sainte-Élisabeth et l'hôpital Sainte-Famille. Émilie Gamelin est emportée par le choléra le 23 septembre 1851 et est inhumée dans le caveau de l'Asile de la Providence. En 1995, le square Berry est renommé la place Émilie Gamelin. En l'an 2000, pour honorer sa mémoire, la ville de Montréal a érigé une statue en bronze à son effigie, offerte par les Sœurs de la Providence. Conçue par l'artiste Raoul Hunter, elle est située à l'entrée de la station de métro Berry-UQAM, dans l'édicule situé au coin des rues Sainte-Catherine et Berry. Elle est représentée en costume de sa communauté, transportant un panier rempli de victuailles d'une main et la main tendue de l'autre, démontrant parfaitement sa grande humanité et sa générosité exceptionnelle. Et la plus grande des reconnaissances pour son immense dévouement sera sa béatification par le pape Jean-Paul II le 7 octobre 2001. Et voilà un très beau portrait d'Émilie Gamelin sous la rubrique des gens d'exception dans l'itinéraire du 1er mars et c'était signé Mario Alberto Reyes Zamora.
Nous filons sur la neige blanche en ce beau jour de dimanche, à travers les sapins verts. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Les enfants de notre village chantent la joie de leur âge et les grands murmurent de se taire. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Le bon Dieu dans son paradis doit aussi chanter avec nous, car la nature est si jolie, le bleu de son ciel est si doux. En filant sur la neige blanche, en ce beau jour de dimanche, à travers les sapins verts, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. bon Dieu dans son paradis doit aussi chanter avec nous, car la nature est si jolie, le bleu de son ciel est si doux. En filant sur la neige blanche, en ce beau jour de dimanche, à travers les sapins verts, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver.
Marie-Michel Desrosiers qui nous rappelle C'est l'hiver. C'est l'hiver qui est bien sûr un chant de Noël incontournable. Et à la fois, il n'est aucunement question de Noël dans cette chanson.
Non, mais de la température de ce matin.
Oui, absolument. Et cette pièce, c'est l'hiver. On fait un hymne à l'hiver. On célèbre l'hiver et c'est une pièce qu'on entend généralement beaucoup à l'automne.
Oui.
Parce que Noël, c'est quelques jours après le début de l'hiver, et après ça, on ne l'entend plus du restant de l'année.
Vous aurez compris mon ironie de ce matin, de la petite jupette et des running shoes, parce qu'on n'en peut plus. Roger, oui. Avez-vous quelques brèves?
Oui, j'ai une espèce de bande dessinée. Ça s'appelle Trop intelligent, c'est dans l'actualité. Les assistants vocaux débarquent dans nos voitures avec la promesse de nous simplifier la vie. Y arriveront-ils? Première vignette, j'ai une auto qui est dans un bouchon de circulation. Il y a une voix qui dit à la conductrice, « Il y a du trafic dans votre itinéraire. » Elle dit, « Je sais. Vous aurez 55 minutes de retard. Ce sera la troisième fois que vous arriverez en retard au travail ce mois-ci. Je sais. » Quatrième vignette, elle est en colère. Le feu lui sort par les oreilles. « Vous allez perdre votre emploi. Je sais. Souhaitez-vous que j'entreprenne des démarches pour vous inscrire au chômage? »
C'est vraiment l'auto-intelligente. Alors, des prototypes pour les sans-abri en Italie, c'est Napoli 2035, un petit organisme caritatif italien qui a créé un prototype de tente pliante en carton pour les sans-abri. En ligne, le projet est devenu viral du Japon à l'Irlande. Des centaines d'organismes se sont enquis de la tente. Donc, on les verra peut-être apparaître dans les rues de Montréal. Cet été, évidemment, ça ne doit pas être très utile, la tente en carton, par des journées comme aujourd'hui ou en hiver.
Oh là là.
Mais pendant l'été, là, du 15 au 20 juillet, ça pourrait toujours être intéressant.
Oui.
Pendant les deux semaines d'été que nous avons. C'est de nombreux pays qui ont vu le nombre de personnes sans-abri augmenter depuis la crise financière, d'où l'utilité de ces prototypes. Voilà, nous serons de retour après la pause. Oui, alors nous sommes de retour. Quels seront les sujets, Roger, dans cette deuxième demi?
Que disent les éleveurs du mouvement vegan?
Ah, intéressant.
Ils ont moins
de choses à vendre, j'imagine. Ouais. Le marché diminue. S'ils ne vendent plus les œufs, les poules, non?
OK. Bon. Par la suite, on va vous parler de solitude. Est-ce qu'on est prêt au Canada d'avoir un ministre de la solitude?
Oh!
Comme en Grande-Bretagne.
Il y en a beaucoup, hein, des gens seuls.
Oh, c'est ça.
Moi, je vous parle c'est une entrevue avec Francis Dupuy-Déry qui a écrit un livre sur la crise de la masculinité est-elle un mythe? Ça sera en deux parties. Alors, Roger.
Bon, alors...
les producteurs de...
Oui, les producteurs. Je vous rappelle que les véganes...
De protéines animales,
Les
véganes, ils n'en mangent pas du tout.
Non, c'est ça. Alors, c'est un grand dossier qui est dans l'actualité du mois de février, là, la révolution végane. Et puis, la journaliste a eu la curiosité d'aller interroger les éleveurs,
pour
savoir ce qu'ils en pensaient du mouvement végane. Et eux qui disent qu'il faut s'assurer de ne pas exploiter les animaux dans toutes les sphères de leur vie.
Oui.
Que disent les éleveurs de vaches laitières ne semblent pas trop s'inquiéter de la popularité du mouvement vegan. Les sondages menés par leur organisation montrent que la confiance de la population à leur endroit demeure excellente, souligne François Dumontier, directeur adjoint des producteurs de lait du Québec. Les éleveurs aiment leurs animaux, dit-il. Ils ont tout intérêt à ce que ceux-ci soient le plus en santé possible. C'est l'actif le plus important dont ils disposent. On n'a pas eu besoin du mouvement vegan pour s'occuper de leur bien-être. Même son cloche, du côté des éleveurs de porcs qui sont fiers de la qualité de leurs produits et veillent au bien-être des porcs. Au Canada, les normes de bien-être animal s'améliorent lentement mais sûrement en raison de la pression des consommateurs et des nouvelles connaissances scientifiques. Si on le compare au reste du monde, le Canada ne fait pas partie des pires élèves, mais pas des meilleurs non plus selon Sabine Brels, dont la thèse de doctorat faite à l'Université Laval est devenue un livre « Le droit du bien-être animal dans le monde » et aussi une base de données « Global Animal Law » qu'elle met à jour régulièrement. Au Canada, il existe un conseil pour les soins aux animaux d'élevage où siègent des représentants des producteurs, des autorités publiques et des groupes de protection des animaux. Il y a un code de pratique pour chaque espèce. Les poules pondeuses, par exemple, le conseil a décidé qu'il fallait que d'ici le 1er juillet 2036, écoutez bien, les cages métalliques trop petites et trop peuplées par les volatiles puissent ouvrir leurs ailes. 2036, c'est une date, disons, un peu lointaine, mais il faut donner le temps de changer les pratiques. Et par ailleurs, c'est aussi une question de rentabilité. On peut bien avoir des poules en liberté qui donnent des œufs, vous allez les acheter, ça vous coûte un petit peu plus cher. C'est une question de rentabilité que les poussins mâles sont tués à la naissance dans les couvoirs qui fournissent des futures poules pondeuses aux producteurs d'œufs. Ils ne donneront évidemment jamais d'œufs, et comme ils sont d'une race différente des poulets de chair, leur croissance est trop lente pour qu'il soit rentable d'en faire de la viande. Donc, on les tue peu après l'éclosion, soit en les gazant, soit en les engouffrant dans une machine munie de lames qui les broie. évidemment, par ailleurs, c'est aussi une question. Aucune technologie n'est actuellement disponible pour déterminer le sexe des poussins avant l'éclosion, mais dans tous les pays, l'industrie des œufs fait des recherches pour déceler et éliminer les embryons mâles avant leur éclosion. Évidemment, les véganes doivent hurler dans ce cas-là. Mm-hmm. Dans l'industrie porcine, les mâles continuent d'être castrés pour éviter que les hormones ne donnent un mauvais goût à la viande. L'Association canadienne des médecins vétérinaires a pris position en 2016 pour que la castration soit toujours faite sous anesthésie locale, puisqu'il s'agit d'une opération douloureuse. Évidemment, l'intervention, quand on fait l'intervention avant que le porceau est 10 jours, alors c'est moins douloureux. Par la suite, ça devient un peu plus délicat. Et l'intervention est plus facile lorsque l'animal est petit parce qu'il est plus facile à manipuler. Un analgésique est toujours donné pour calmer la douleur post-opératoire. Les animaux récupèrent très bien. Et on se fait des recherches, ça a l'air, dans le monde entier pour trouver une nouvelle façon de s'occuper de la castration des porcs.
Ben après la castration des porcs, moi je vous parle de masculinité. C'est une entrevue dans le journal L'Itinéraire. Ben la crise de la masculinité est-elle un mythe? C'est un texte de Camille Teste. Le 23 avril 2018, Alec Minassian, 25 ans, tuait 10 personnes à Toronto, dont 8 femmes dans une attaque à la voiture Bélier. La veille sur Facebook, il avait annoncé sa volonté de commettre un acte misogyne, s'ajoutant à une longue liste de crimes perpétrés contre les femmes du fait de leur sexe, au Canada comme ailleurs. Célibataire involontaire, membre des Incels, I-N-C-E-L-S, Alec Minassian était un masculiniste revendiqué. Comme tant d'autres, il reprochait aux femmes, et en particulier aux féministes, d'être les vrais privilégiés du système, conséquence de quoi les hommes auraient plongé dans une crise de la masculinité sans précédent. Pour Francis Dupuy-Déry, politologue, enseignant à l'UQAM et auteur de « La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace » aux éditions Remue-Ménage 2018, cette crise de la masculinité est une chimère, un discours à déconstruire. Selon vous, l'idée qu'il y aurait une crise de la masculinité est avant tout un discours. Oui, nous dit Francis. Dans mon livre, j'ai tenté de montrer que ce n'est pas une réalité tangible, mais bien un discours qui laisse entendre que les hommes souffrent d'une féminisation croissante de la société. En fait, j'y propose un contre-discours et j'essaye de démontrer que cette rhétorique masculiniste déforme la réalité et n'est qu'un ramassis de clichés et de stéréotypes. Une injustice identifiée par certains masculinistes est la question des violences physiques et sexuelles. Oui, selon plusieurs, les femmes tenteraient de détruire les hommes avec de fausses allégations. Pour démontrer que les femmes ont systématiquement recours à ces fausses allégations, il montre notamment que le taux de condamnation des hommes dans des procès pour violences conjugales est inférieur au taux de plainte. Sauf qu'ils oublient que dans n'importe quel processus judiciaire, il y a moins de personnes jugées coupables à la fin qu'il n'y a eu de plainte. De fait, ça peut être très difficile de prouver des violences, notamment sexuelles. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas reconnu coupable qu'il n'y a pas eu de gestes répréhensibles. Sauf que pour les masculinistes, les jugements des tribunaux traduisent une réalité sociale. Un autre argument avancé par le discours de la crise de la masculinité, la question du décrochage scolaire. Oui, là encore, celui-ci est plus important chez les hommes que chez les femmes, nous dit-il. Dans le discours masculiniste, on considère que c'est la faute de l'école, qui serait trop féminisée et dans laquelle on ne trouverait pas assez de modèles masculins. En fait, quand on regarde les chiffres, on constate que la variable la plus influente sur les résultats scolaires, ce n'est pas le sexe, mais la réalité socio-économique. Ainsi, certaines études montrent que les différences de résultats scolaires entre les sexes sont à peu près nulles dans les communautés où les conditions matérielles ou financières sont très bonnes. En revanche, les différences de taux de décrochage scolaire s'aggravent dans les communautés moins aisées. L'une des façons d'expliquer ce phénomène, c'est de démontrer que dans ces milieux-là, les garçons décrochent plus de l'école, certes, mais pour se trouver un emploi relativement bien payé et nécessitant peu de diplômes. Un jeune homme va par exemple décider de quitter l'école pour accéder à des emplois dans le milieu de la construction. Une fille, elle, ne pourra pas vraiment accéder à ce genre d'emploi, ce milieu étant encore très ségrégué et majoritairement réservé aux hommes. À niveau de diplomation égale, celle-ci aurait accès à des emplois beaucoup moins bien payés comme caissière ou coiffeuse. Stratégiquement, il est donc moins attirant pour une femme de décrocher à ce moment-là. Voilà, c'était le début d'une entrevue avec Francis Dupuis-Déry. Il nous parle de son livre « La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace ». J'ai vérifié sur le site de Catalogue Néligan. Il est disponible en version numérique, pas encore en version audio.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde.
Je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera mon dernier jour, ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude.
Georges Moustaki qui reprenait un succès qu'il a eu en 1969 avec Ma Solitude. Cette version-ci a été enregistrée en 2011 avec la chanteuse de Pink Martini, China Forbes.
Merci Jean-Sébastien. Alors Roger, on parle de solitude.
Oui, c'est ça. Peut-on être malade de solitude? Mm-hmm. Hein? Ça, c'est le thème de l'article.
Oui. Mm-hmm.
Glynis Radcliffe a signé ce texte parce que quand Theresa May a nommé une ministre de la solitude en janvier 2018, la nouvelle a fait les manchettes partout sur la planète. Un ministère pouvait-il vraiment se consacrer à une réalité aussi intangible qu'un sentiment? Au Royaume-Uni, le sujet n'est pas pris à la légère. Le poste a été créé à la suggestion d'une commission parlementaire et un rapport publié par une fondation à la fin de 2017 a révélé que 9 millions de Britanniques sont touchés par la solitude, 43 % des jeunes de 17 à 25 ans et 50 % des personnes handicapées, de même que les personnes âgées, les soignants, et ainsi de suite. L'ancien directeur du service de santé publique des États-Unis, Vivek Murthy, décrivait la montée fulgurante de la solitude comme une véritable épidémie dans l'édition de l'automne 2017 du Harvard Business Review. En plus de l'isolement engendré par les téléphones intelligents dans nos vies, en particulier celles de la jeune génération, sujet qui a fait l'objet d'une foule d'articles, Vivek Murthy souligne que de nombreux facteurs ont émergé depuis quelques décennies et jeté les bases d'une existence encore plus solitaire. La mobilité géographique croissante a fait que plus de gens s'éloignent de leurs proches en vieillissant. La popularité grandissante du télétravail a réduit la quantité d'interactions en personne. L'omniprésence du courriel a amené les employés, même ceux qui travaillent dans les bureaux ouverts, à communiquer par écrit plutôt que de vive voix. Durant ces années de pratique médicale, le Dr Murthy a constaté que la solitude était le dénominateur commun de toutes sortes de troubles cliniques et qu'elle aurait ainsi contribué à provoquer la maladie et à compromettre la capacité de résilience et de guérison des patients. Le Canada devrait-il emboîter le pas? Après 4 années de recherche sur la solitude, Amy Rokac, professeure de psychologie à l'Université York, a déterminé que les jeunes de 18 à 30 ans sont les plus touchés. Il se dit ravi de l'approche du Royaume-Uni et espère qu'elle contribuera à déboulonner les mythes autour de la solitude. Aujourd'hui, les gens parlent de toutes sortes de choses, de santé mentale, mais pas de solitude, car on croit que ressentir la solitude peut être, c'est être isolé, et une personne isolée est perçue comme indésirable. Susan Fisher, autre psychologue canadienne, estime elle aussi qu'on doit collectivement s'attaquer au problème de la solitude. Mais comme on peut le penser, d'autres experts sont sceptiques et rappellent par exemple qu'aucun lien de causalité entre la solitude et toute forme de maladie n'a encore été établi. Certains vont jusqu'à remettre en question l'idée d'une flambée de solitude et affirment que les données indiqueraient plutôt une hausse de la tendance à exprimer ce sentiment qui devient de moins en moins tabou. Le docteur David Gratzer, psychiatre au Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto, est sceptique. Le concept même de ministère de la solitude pose problème, selon lui, car le terme reste vague, le terme est vaste et renvoie à un sentiment souvent passager. Il n'est pas contre le fait d'étudier la problématique, mais doute que confier cette tâche à des fonctionnaires soit le meilleur moyen d'y parvenir. Une bonne intention n'est pas nécessairement garante d'une bonne politique publique, dit-il. Je dois dire, en terminant, que si l'Angleterre a été prompte à nommer ce ministre, il faut savoir que la personne qui avait présidé la commission parlementaire sur la solitude, Joe Cox, a été assassiné. Je ne connais pas du tout les circonstances, mais ça a dû avoir une influence sur le gouvernement pour dire ben, peut-être que ce serait temps qu'on crée un ministère. Je ne sais pas si on dit le ministère de la solitude, mais un ministre de la solitude, un ministre responsable de la solitude. Est-ce que c'est un job qui vous intéresserait?
Alors, je poursuis cette entrevue sur la crise, le livre plutôt de Francis Dupuy-Déry, « La crise de la masculinité est-elle un mythe? » Cet article qui est signé Camille Teste. Comment en êtes-vous venu en tant qu'homme à travailler sur ce sujet? Dès la fin des années 80, j'ai commencé à me pencher sur ce discours. C'est un discours qui m'énerve, car je considère qu'en tant qu'homme, on est bien plus privilégié que les femmes dans nos sociétés. Dans les faits, ce sont les hommes qui sont encore le plus souvent à la tête des États, des banques, des syndicats, des partis politiques, des associations étudiantes, des associations religieuses, des universités, des organisations criminelles, dans les conseils d'administration, etc. Et puis, encore aujourd'hui, à diplôme égal et travail égal, les salaires des hommes sont plus élevés que ceux des femmes. Par ailleurs, les hommes ont bien moins souvent peur d'être victimes de violences de la part de l'autre sexe. Donc, on est loin d'une égalité entre les deux sexes, ce qui rend scandaleux le discours qui consiste à dire qu'il y a une crise de la masculinité due aux femmes. Évidemment, je ne dis pas que les hommes ne vivent pas de problèmes de santé, de crises existentielles, de troubles physiques, mentaux ou même économiques. De même, je ne dis pas que c'est toujours facile d'être un homme. Les hommes se retrouvent parfois surreprésentés dans certaines cohortes, comme c'est le cas pour l'itinérance. Mais ils ne sont pas dans ces situations à cause d'un complot féministe. Vous montrez aussi qu'aujourd'hui, ces discours sur la crise de la masculinité sont tenus un peu partout sur la planète. Oui, sur les 20 dernières années, on observe que des hommes se disent en crise partout dans le monde. On l'observe en Occident, donc, mais aussi en Russie, en Amérique latine, chez les Wolofs, en Afrique subsaharienne, chez les protestants, chez les catholiques, chez les musulmans, chez les juifs, en Corée, en Chine, au Japon, au Maghreb. Bref, quel que soit le régime politique, économique ou juridique, peu importe la manière dont est pensée la place de la famille, que ce soit dans une monarchie, un régime parlementaire, un régime socialiste d'État ou tout autre système, l'homme peut se considérer en crise. Alors comment l'expliquer? Dans la mesure où je constate qu'il y a des discours sur la crise de la masculinité dans des contextes où il n'y a pas de débat sur le fait que les féministes ne contrôlent pas tout le pays ou les institutions, je crois qu'on peut avancer que ce discours est vraiment un discours idéologique et rhétorique qui a au moins deux fonctions principales. D'abord, c'est un discours qui a pour fonction d'attirer l'attention et l'empathie vers les hommes. D'autre part, il est aussi là pour délégitimer les combats des femmes et présenter comme une menace les femmes qui ne restent pas à leur place ou veulent déroger aux places qu'on veut les voir respecter. Vous dites enfin que le discours porté par les masculinistes trace une ligne très distincte entre hommes et femmes. Oui, les masculinistes ont une définition semi-précise, mais clairement sexiste, de que ce doivent être des vrais hommes et des vraies femmes. L'homme, c'est l'action, l'agressivité, la violence, la conquête, la raison et l'autonomie. La femme, c'est l'empathie, le collectif, la communication, l'émotion, la douceur, la passivité et l'égalité. Bien sûr, nous dit Francis Dupuy-Déry, je ne nie pas que dans nos sociétés, il y ait une socialisation différente entre les sexes. Mais il me semble que toutes ces valeurs-là sont des valeurs avant tout humaines. En principe, ça devrait être chacun d'entre nous. On a tous le potentiel d'être ambitieux et doux, agressif et égalitaire, empathique et compétitif. Selon moi, c'est absurde de penser que si certaines valeurs supposément féminines ont plus d'influence, alors cela signifie que nous traversons une crise. C'est absurde de penser qu'il faut préserver une identité masculine pure qui nous viendrait de la chasse aux mammouths. Voilà, c'était une entrevue signée Camille Teste dans l'itinéraire du 1er mars. Cette entrevue avec Francis Dupuy-Déry sur son livre publié en 2018 aux éditions Remue-Ménage, « La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace ».
Bateau vert et blanc, plus beau pays du monde se ferait l'amour sur la plage en savourant chaque seconde où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. J'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou, et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme, mais quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là.
Madame Diane Tell, 1979, Si j'étais un homme.
Merci Jean-Sébastien. Alors, pour terminer cette émission, en Allemagne, c'est un petit texte dans l'itinéraire, apprendre de l'échec. Une fuck-up night, c'est vraiment F-U-C-K-U-P, une fuck-up night, est une soirée où deux ou trois personnes parlent ouvertement pendant environ 10 minutes d'un échec passé. Ce faisant, elles rendent leurs erreurs publiques, plutôt que les dissimuler ou de les oublier. La personne qui raconte ses expériences peut les revivre sous un angle différent, tandis que ceux qui l'écoutent peuvent tirer des leçons de ses erreurs sans avoir à faire les mêmes. La toute première soirée fuck-up jamais organisée aurait eu lieu à Mexico, avant de se diffuser dans plus de 300 villes de 40 pays. Alexandra Nageli organise des fuck-up nights à Salzbourg depuis 2008. Elle est heureuse que de tels événements changent l'attitude des gens face à l'échec. Nous commettons tous des erreurs et au lieu de rester silencieux, nous pouvons apprendre beaucoup en partageant nos expériences. Il me semble que notre valeur en tant qu'être humain se mesure trop à la réussite. Donc, voilà pour le travail de de dévoiler ses erreurs. Mm-hmm. Et ce qui met fin à cette émission. Jean-Sébastien Alarizi, merci pour tout. Roger Roy, vous nous quittez pour une petite vacance.
Tout à fait.
Vous partez de la gadoue au soleil.
Oui, parfait. 30 degrés, ça a l'air.
C'est bon.
La destination.
Ben, je mets fin. Moi, c'est Diane Pilote. Je vais vous accompagner également la semaine prochaine. Je serai de retour au micro. Bonsoir. Bonjour tout le monde.
Au revoir.